Vous savez, ce n'est pas qu'une petite prière. C'est un combat qu'on mène dans le spirituel. Quand on annonce que la parole de Dieu est capable de changer nos vies et la vie de nos proches, c'est un combat spirituel que nous menons. Alléluia. Alors, ce n'est pas simplement un roman qu'on raconte à chaque dimanche, c'est un vrai combat. Derrière, il y a de la prière de vous tous. Parce que ce que nous déclarons que nous sommes, nous le devenons. Nous le sommes. Alléluia. Alors on va encore déclarer, encore et encore. Parce qu'on y croit et on met notre foi dessus. Ceci est la parole de Dieu. Alléluia. Je base ma vie sur la parole de Dieu. Alléluia. Mes yeux voient la parole de Dieu. Je sais qu'elle agit dans ma vie. Et je sais que ce qui est écrit, que je peux faire, je le fais. Ce qu'elle dit que je peux être, je le suis. Et ce que je peux avoir, je l'ai par la foi. Alléluia. Ceci est la parole de Dieu, jamais plus. Je serai pareil. Par la semence incorruptible que je prends va me transformer de jour après jour, de gloire en gloire, et à la gloire de Dieu. Alléluia! Vous savez, quand on commence un message en déclarant la parole de Dieu, ce sera un message puissant. Quels que soient les mots qui vont sortir, quel que soit ce qui a été préparé, la parole de Dieu agit dans nos vies. Alléluia! Alléluia, on le croit. Alors là, ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer un message que le Seigneur a mis dans le cœur de 3 personnes. Fabuleux! Ce message a été reçu par le Saint-Esprit, par Pasteur Ken, par Jean-Charles et par moi-même. Un message qui va être partagé, 3 pasteurs. C'est extraordinaire. Je pense que c'est la première fois que ça arrive à la vie comblée. Le même message, en 3 parties. Alléluia. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et ce qu'on a reçu dans notre cœur, on va essayer de le transmettre. Aujourd'hui, ça va être moi. Dimanche prochain, ça va être Jean-Charles. L'autre dimanche, ça va être encore Pasteur Ken. Et puis, c'est ça que Dieu veut pour le moment, pour cette Église. Alors, merci Seigneur, que ma bouche, Seigneur, soit à ton écoute, Seigneur. Et ce qui sort, Seigneur, c'est ce que toi, tu veux montrer à l'ensemble du corps de Christ, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour la puissance de l'onction que tu mets dans notre vie. Nom de Jésus, amen. Alléluia, on va commencer là. Alors, la semaine dernière, vous vous rappelez, on a fait la première partie. C'était bon, hein? Ok, donc là, on va reparler de Néhémie. Puis, vous savez, moi, j'ai besoin de fixer mes idées. J'ai besoin de savoir qui, quoi, quand, où, comment. Vous savez, j'ai peut-être une formation d'ingénieur, mais j'ai besoin d'avoir des précisions. Quand je marche quelque part, je sais que ce qu'il y a sous moi, là, ça va tenir. Je ne peux pas marcher sur un endroit où ça peut s'écrouler. Ok? Ça ne veut pas dire que je suis terre à terre, ça veut dire que je sais où je vais. Merci Seigneur. Tu penses, Seigneur. T'as confiance en moi, Seigneur. Alors, un peu d'histoire. Néhémie, ça se situe au moment de la captivité de Juda à Babylone. Un petit peu d'histoire pour essayer de comprendre. Néhémie, en fait, c'est la suite d'Esdras. Initialement, c'était le même livre, d'ailleurs. Et Esdras est déjà venu à Jérusalem, qui était détruite. On voit ça dans Esdras 1, jusqu'à 1, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Esdras avait déjà essayé de construire la muraille. Bon, bien sûr, Zorobabel a réussi à construire le temple, ça c'est très bien, ça s'est bien passé, plus ou moins bien. Mais Néhémie, quand il a reçu donc l'appel d'aller le Seigneur, il savait que Esdras avait déjà essayé de reconstruire un muraille. Il n'avait pas réussi. Mais Néhémie a profité de l'expérience qui s'était passée avec Esdras, et lui, il va réussir. Alors, Néhémie, ça situe quoi? C'est du 440 avant Jésus-Christ, 425 avant Jésus-Christ, et c'est Néhémie qui va reconstruire le mur qui a été abattu vous savez, par les Babyloniens, là, Nabucodonosor, les tsars, c'est ça, c'est pas un dinosaure, mais c'est un tsar. Ok. Voilà, donc Néhémie, ça se situe vers la fin, je dirais, des prophètes, puisque Néhémie est l'un des derniers, avec Esdras et... c'est Malachi, pas Malachi. En France, on dit Malachi. Ici, on dit Malachi. Bon, okay. Donc, ça veut dire Malachi. Bien comprendre que Abraham, lui, a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ. Moïse, ça a été 1500 avant Jésus-Christ. David, Salomon, ils ont vécu à quelque chose comme 1000 avant Jésus-Christ. Et là, on en est à 400 avant Jésus-Christ. Et vous savez que juste après, il va y avoir une période où il n'y aura plus rien. Plus aucun prophète. Donc, il fait partie des derniers prophètes, et ce qu'il va réaliser, c'est important. Pourquoi d'abord était-il en captivité, le peuple? Pas le peuple juif, mais le royaume de Juda. En fait, parce que, on sait que pendant David et Salomon, le peuple était uni, il y avait vraiment une force, une puissance. Puis à un moment donné, ils se sont mis à se séparer. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a eu des problèmes d'idolâtrie. Et ils sont séparés en deux gros royaumes. Ça a été un royaume avec 10 tribus réunies, 10 sur 12, qui a commencé en 931 avant Jésus-Christ. Et les tribus de Juda, eux, sont également réunies, on fait un autre royaume. Et ces tribus-là vont être déportées, Juda, c'est eux dont on parle, vont être déportées par les Babyloniens et vont rester en captivité pendant 70 ans. Donc voilà un peu le contexte où se trouve Néhémie. Il faut bien comprendre que Néhémie va profiter de tout ce que les prophètes ont écrit. Il avait une littérature devant lui qui était énorme. Il savait donc quel était le plan de Dieu pour les Juifs. Il connaissait bien le plan de Dieu pour les Juifs. Il connaissait bien l'Alliance. Et il avait tous les écrits. Donc le texte de Néhémie est important pour nous parce qu'il va nous toucher. Il nous touche parce que ce qu'il va réaliser, Néhémie, ben, ça peut nous toucher aujourd'hui encore dans notre vie de tous les jours. Néhémie, c'est qui? Ben, c'est sûr, c'est un juif, c'est certain. Il est probablement né à Babylone, quand, 5e siècle, on sait, avant Jésus-Christ. Néhémie va devenir l'échanson du roi. Quel roi? Le roi Artaxerxès. Artaxerxès, ça aussi, je n'ai pas les noms. Hein. Artaxerxès. Okay. Et lui, donc, c'était le roi de Perse. Donc c'est plus le roi de Babylone, c'est le roi de Perse. Et il était, à ce moment-là, quand ils s'entendent de ce qui se passe à Jérusalem, il était à Suse, qui était la capitale, et c'était aussi le palais d'hiver, d'ailleurs, de ce roi-là. Et il était quoi? Il était échanson du roi. Mais il était plus que ça, en fait. Parce qu'en tant qu'échanson du roi, échanson, ça veut dire que c'est lui qui va servir le vin, c'est lui qui va goûter le vin. C'est lui qui va choisir le vin. C'est important. Il avait donc la totale confiance du roi. Et en plus de ça, il avait des fonctions de maître des cérémonies, et plus ou moins aussi de premier ministre en termes de conseil. Le roi l'écoutait, le roi l'observait. Donc il avait une position favorable, unique et stratégique. Voilà, donc ça c'était pour mettre le contexte, pour préparer le plat qui va vous être servi. Maintenant on va juste dire quelques mots, sur quelques rappels sur la première partie. Donc là c'est le 55. Voilà. Donc la semaine dernière, on a parlé de la première partie, c'est-à-dire dimanche dernier, et on a dit une chose, nous avons compris que pour bâtir notre vie, on parle de quoi là? On parle de bâtir une vie de rêve. On a besoin d'abord, en tout première chose, de deux choses. On ne peut pas passer avant ces deux choses, il faut d'abord les avoir. D'abord, il faut avoir la vision. Très important la vision. La vision pour notre vie. Quelle vision? La vision que Dieu veut nous donner pour notre vie. Parce que ça sera la meilleure des choses possibles pour notre vie. Et ensuite, une fois qu'on a la vision, il faut obtenir la provision. Parce que si c'est la vision de Dieu, la provision vient. La provision, elle vient pour quoi faire? Pour réaliser la vision. Alors on a vu, ça c'était important de le souligner, que Néhémie a dû abandonner une situation de relative sécurité qu'il avait dans le palais. Ah, il était bien dans le palais. Les chansons du roi, il était écouté. Personne ne pouvait le nuire. mais par amour et par compassion pour son peuple et pour la vision de Dieu, il va aller vers des épreuves difficiles. T'es pas obligé, hein? Mais par amour et par compassion, il va s'avancer vers des épreuves difficiles. On a vu qu'au début, après s'être renseigné sur l'état réel de ce qui se passait à Jérusalem, c'est terrible. Les murs étaient défoncés par endroits, les portes étaient en train de brûler ou étaient toutes calcinées, les portes ouvertes. Vous imaginez les Juifs qui étaient dedans n'avaient aucune sécurité. Ils étaient sans protection. La ville, là où le temple venait d'être reconstruit, était ouverte à tous les voleurs et pillards de la région. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier pendant 4 mois pour préparer l'initiative qui devait le mener jusqu'au roi et lui expliquer, Seigneur, je parle du Seigneur, c'est son roi, Seigneur, j'ai quelque chose à cœur et il faut que je le fasse. Et ça a pris 4 mois de prière. Donc vous voyez, il n'a pas fait ça à la légère. Ensuite, il a dû chasser sa peur, parce que préparer ça par la prière, c'était une chose, mais ensuite il a fallu le faire. Et il a chassé sa peur. C'est pas facile de parler à un roi de Perse. On va en parler tout à l'heure. Vous vous rappelez avec Esther, l'histoire d'Esther? Pas facile de parler au roi de Perse. Et il s'est confié à Dieu. Et malgré le risque qu'il encourait de parler au roi, il a demandé au roi une requête très difficile. Requête que le roi avait déjà refusée précédemment, mais de manière à ce que le roi accepte. On n'a pas le temps d'en parler là, parce que c'est plus de l'exégèse, mais la manière dont il formule sa demande, le roi a été touché. Parce que les mots qu'il a utilisés, c'est des mots que le roi pouvait comprendre. Okay, mais ce n'est pas l'objet de notre message ce matin. On pourra en reparler plus tard. Donc il demande au roi quelque chose de difficile, de manière à ce que le roi accepte. Et le roi a accepté, et une fois qu'il a accepté, il est parti sur Jérusalem pour exhorter le peuple. Et il va communiquer sa vision au peuple. Parce qu'il a compris qu'il ne pourrait pas rebâtir la muraille tout seul. Et pour ça, il avait besoin d'obtenir l'adhésion du peuple. On est toujours sur la 55, là. Ouais, très bien. Donc sa vision était basée sur quoi? Sur la confiance en Dieu, mais plus que ça. Cette confiance, elle avait un support. Ses promesses. Sa vision était basée sur les promesses de Dieu. Quelles promesses? Le respect de l'alliance que Dieu avait faite avec ses pères. Donc il était posé, comme on dit, sur du béton. Il savait que si il faisait les termes donnés par l'alliance, Dieu ferait ce qu'il avait promis. Donc il savait qu'il avait la réponse de Dieu. Il était bien ancré sur lui-même. Quelle arme a-t-il utilisé? Une arme efficace, cette arme la plus puissante dans ce monde. Vous savez laquelle? La prière. La prière est une arme puissante. La prière, le jeûne, l'intercession. Ceci l'a amené à se repentir devant le Seigneur pour le peuple entier. Néhémie est un homme de foi. Et son champ de bataille, c'était la prière. Alléluia. Regardez un peu la prière que Néhémie fait au chapitre 1. C'est sûr que, dans cette prière, il a envie que le Seigneur l'utilise. La muraille était défoncée, les murs étaient percés, les portes brûlées par le feu. Et là, il a pris des risques. Vous savez qu'il était défendu, sous peine de mort, de paraître affligé en la présence du souverain perse. Il suffisait simplement de faire la gueule devant le souverain pour automatiquement perdre la tête. Important. Pourquoi? Parce que il considérait que c'était un honneur d'être devant la présence du roi et que devant la présence du roi, on avait toute la plénitude, toute la joie. Donc, vous imaginez que quand Néhémie a servi le roi en faisant une triste mine, couru un risque énorme. Mais il l'a fait. Et il l'a fait. Et vous savez quoi? Le roi lui a posé une question qui était importante. La question que le roi lui a posée, Néhémie n'est pas tombé dedans. Il a répondu que le roi ne meurt jamais, que le roi vive, que... on va reprendre peut-être. Que le roi vive 1000 ans. Bon. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Voilà. Que l'empereur vive toujours. Pourquoi il a répondu ça? Parce que c'est clair que l'empereur lui a posé la question, est-ce que tu n'es pas en train de me trahir là? Tu me fais la gueule, c'est quoi que tu veux? Peut-être que tu sais qu'il y a un complot? J'ai parlé français un petit peu clair là, hein. Mais vous comprenez, hein. C'est ça qui s'est passé. Et Néhémie là n'est pas tombé dessus. Alléluia. Donc, Néhémie a donné la bonne réponse, la réponse que le roi a acceptée et que le roi a cru. Vous voyez un peu le travail des 4 mois précédents dans la prière? C'était ça, l'objectif, le but. Néhémie donc s'est appuyé sur l'alliance que Dieu a faite avec ses pères. Et en fait, il pouvait le faire. Vous savez, je ne sais pas exactement les versets qui sont passés dans la tête de Néhémie, mais on dit souvent qu'il faut au moins 3 versets pour considérer qu'on est bien dans la bonne vision. Souvent, on se suffit de 2. Mais lorsqu'on en a 3, on est sûr qu'on a bien compris le texte que l'on vient de lire et qu'on l'a bien compris. Premier, dans 1 Samuel 12, c'est le 56, au verset 22, il est dit « En effet, le Seigneur ne délaissera pas son peuple à cause de son grand nom, puisque le Seigneur a voulu faire de vous son peuple. » Dans le psaume 94, au verset 14, il est dit « Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple. » Et oui, le peuple est en captivité. Il n'abandonne pas son patrimoine. Et dans Joël, « Seigneur déborde de zèle pour son pays. Il a pitié de son peuple. » C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais Néhémie, donc, était basé sur les Écritures. Et il avait compris que s'il faisait ce qu'il fallait faire, Dieu allait répondre. Et ce qu'il fallait faire, c'était revenir dans l'Alliance. D'abord, c'est sûr qu'il fallait se rendre compte des péchés qui ont été faits, et ensuite d'intercéder pour ces péchés, de demander pardon au Seigneur, et de revenir sur ces péchés. Voilà, donc ça c'était le préambule de la première partie. Là, on en est maintenant à la partie 2. Dans la partie 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de comment Néhémie va organiser ses travaux. Mais pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça parce que il y a une leçon à tirer de Néhémie. Une leçon à tirer de Néhémie, pas pour avoir la tête remplie d'histoire et de compréhension. C'est que ce qu'a fait Néhémie, les principes qui sortent de Néhémie, sont vrais aujourd'hui. Et ces principes-là peuvent nous guider notre vie. Et si on les applique, ça va nous amener le succès. Alléluia. On veut quoi? On veut bâtir notre vie dans la victoire. On veut réussir notre vie. Alléluia. Et toute la parole de Dieu est capable d'enseigner. Alléluia. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va en tirer de Néhémie? Bien, je vais essayer d'extraire, sûr qu'on n'a pas énormément de temps le dimanche matin, mais on peut ressortir des points principaux et les appliquer dans notre vie. Et si on réussit à faire ça, on va être gagnant. On va avoir le succès. Alléluia. Alors, on reprend. Néhémie a un potentiel de quelque chose comme 40 000 hommes. En fait, si on est puriste, il a un potentiel de 42 360 personnes. On trouve ça dans Néhémie chapitre 7, verset 66. Il a les hommes. Il a reçu le bois. Vous savez qu'il a demandé le bois à l'empereur, au roi de Perse. Il l'a obtenu. Il a le bois, il a les hommes, il a les outils, il a le peuple. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va parler au peuple. Et le peuple a été préparé pendant 14 ans par les enseignements d'Esdras. 14 ans. Et ces enseignements d'Esdras vont porter leurs fruits là, maintenant. Maintenant que Néhémie, là, est prêt à suivre le Seigneur et construire la muraille. Alléluia. Regardez ce qui se passe dans Néhémie 2, au verset 20. 56. On laisse comme ça. Il dit, je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Alors, quels sont les autres éléments que Néhémie va mettre en avant maintenant? Quel est le deal là-dedans? Le deal, c'est de finir la muraille le plus vite possible. Parce qu'il sait très bien que si ça s'éternise trop, les ennemis vont se regrouper, ils vont s'organiser, et elle sera jamais finie. Et on va voir, tout à l'heure, au chapitre 6, verset 15, que la muraille, elle fut achevée en 52 jours, ce qui est extraordinaire. C'est un travail divin. J'allais dire titanesque, mais non, c'est un travail divin. C'est au-delà du titanesque. Ça peut être que divin. Et même les ennemis l'ont reconnu. C'est pas possible! Comment ils ont fini en 52 jours? Mais on n'a même pas eu le temps de se regrouper pour savoir ce qu'il faut faire. C'est ça qui s'est passé. Et là, on a vu la main de Dieu. Et pour ça, première chose que l'ennemi doit faire, c'est qu'il doit être fortifié. Lui, il doit être fortifié. Pourquoi? Pour organiser les travaux. Alors, c'est la première chose qu'on doit faire, le premier élément qu'on doit prendre pour nous, il faut se fortifier avant de commencer les travaux. Et sa force, donc la 57, tu mets la 57, sa force, il va la prendre dans deux choses. Il va la prendre dans la dévotion qui devient communicante. Le premier mot que j'avais eu du Seigneur au départ, c'est significatif, mais c'est surtout pour me faire comprendre. Mais après, je me dis non, on ne peut pas le mettre. Le mot que le Seigneur m'avait donné, c'était qu'il va prendre dans la dévotion qui devient contagieuse. Vous savez ce qui se passe quand une maladie contagieuse se développe? Il y a un effet de vague. Ça démarre là, puis la grippe qui démarre là, et puis paf. Là, on ne parle pas de grippe, là, on parle de dévotion. Donc, ce n'est pas possible d'utiliser ce mot. Mais on peut comprendre ce qui s'est passé. Cette dévotion, elle est devenue communicante, comme une maladie. Mais ce n'est pas une maladie. Que signifie le mot dévotion? Si on regarde bien ce que signifie le mot dévotion. Dévotion, bien sûr, je ne vais pas encore vous faire le thème de tous les mots décortiqués, grec, latin, tout ce que vous voulez. Non, je vous donne le résultat, là. Il vient du temps, hein. Le mot dévotion signifie confiance extrême, extrême, envers le maître. La dévotion, ça signifie un attachement, un dévouement profond. Lorsqu'on va s'investir totalement, complètement, dans une action. Et d'ailleurs, dans la dévotion, souvent, on s'investit pleinement dans une action. Et souvent, c'est pas notre profit. C'est au profit des autres. Parce que l'Éternel nous met dans le cœur. Et cet attachement, il l'applique dans sa volonté de se conformer aux choses de l'alliance avec l'Éternel. Car il sait que si lui respecte sa partie de l'alliance, Dieu va respecter son alliance. Néhémie va chercher, et je le comprends bien, Néhémie va chercher quelque chose de tangible. Et ce qui est tangible pour lui, ce qui est absolument tangible, c'est l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Alléluia. Alors comment est-ce qu'il va mettre en place cette dévotion? Ben, il va faire exactement ce qu'Esdras avait fait déjà. D'abord, il va reconnaître que le problème des Juifs, le problème à la racine, c'est le péché. C'est la première chose. Tout réveil démarre avec la reconnaissance qu'on est dans le péché. Son peuple n'a pas obéi au commandement. Il y a eu des mariages mixtes, il y a eu de l'idolâtrie, le mariage mixte a entraîné l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est vraiment pas bon pour le peuple juif. Donc qu'est-ce qu'il fait? La solution, il a compris que la solution, c'était de confesser au Seigneur, ou que le peuple confesse au Seigneur. Mais il va faire plus que ça, il va s'identifier au peuple, au point de confesser le péché du peuple comme le sien. Regardez la prière de Néhémie, toujours dans Néhémie 1, verset 4 au verset 11. 4-11. Vous l'avez? Alors je vais vous le lire. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant Dieu, devant le Dieu des cieux. Et je dis, ah Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance de la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Alors, Dieu, il sait tout ça. Mais il est en train de le rappeler en disant que oui, Dieu, je comprends tout ça. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant les péchés des Israélites. Nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements. Puis, à partir du verset 8, il dit « Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. » Donc il reconnaît, il dit « Oui Seigneur, ok, c'est notre faute si aujourd'hui on a été déporté, c'est notre faute. C'est pas la tienne Seigneur. » Mais, si vous revenez à moi, c'est la suite de la promesse, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors, écoutez ça, quand même vous serez bannis à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Magnifique cette prière. Il prie ce que Dieu dit. C'est sûr qu'il va avoir le succès. C'est la bonne prière, c'est la prière qu'il fallait. Il fallait prier la prière de Dieu. Alléluia. Et en plus de ça, il va plus loin, il va dire « Seigneur, maintenant tu m'utilises !» Regardez. « Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. » On parle de cet homme, c'est le roi. J'étais alors échanson du roi. Alléluia. Donc on voit comment Néhémie va s'humilier devant le Seigneur, va reconnaître les péchés de son peuple. Et à partir de là, il dit, voilà Seigneur, c'est ça. C'est ça ta promesse. C'est toi qui le dis, Seigneur. Maintenant je sais. Vous vous rendez compte à quel point Néhémie avait une assurance dans sa prière. Il était béton dans sa prière. Béton, c'est pas facile à casser, hein. Ok. Il savait une bonne masse, oui. Alléluia. Alors, une fois qu'il a prié, qu'il sait que le Seigneur va aller exécuter sa parole, va respecter sa parole, avant de parler aux notables, aux magistrats, il va s'inquiéter de l'état réel de la désolation. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être précis dans les faits. Il ne va pas dire n'importe quoi, il ne va pas parler de n'importe quoi à ses frères juifs. Il va parler de faits. De fait réel. Il ne veut pas influencer son peuple. Néhémie ne veut pas influencer son peuple. Il aurait pu le faire. Il avait les capacités de le faire. Mais il n'a pas voulu. Et plutôt qu'influencer le peuple, il a voulu que le peuple voie la réalité des choses lui-même. Et que le peuple se confie en l'Éternel. Pour que lui change sa situation. Alléluia. On voit ça dans Néhémie 2, versets 12 à 18. Je vais vous le lire. Puis je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans n'avoir indiqué à personne comment Dieu m'avait mis à cœur. Donc il va faire le tour de la ville pour savoir exactement ce qui se passe. Et quand il va parler aux notables, il va être capable de dire voilà ce que j'ai vu. de faire le tour de Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que l'animal que je montais. Il a fait ça tout seul. Pourquoi ? Il ne voulait pas le dire aux notables, parce que les notables auraient pu l'influencer. Et lui, il voulait se voir lui-même d'abord de ses propres yeux. Je sortis donc la nuit, par la porte de la vallée, dans la direction de la source du dragon, vers la porte du fumier, en inspectant. Il avait besoin d'inspecter sans avoir d'idée préconçue la muraille de Jérusalem, qui avait des brèches et ses portes dévorées par le feu. Et devant les magistrats, qu'est-ce qu'il va faire? Je leur dis alors, voyez le malheur où nous sommes. Voyez, il l'a déjà vu, lui. Donc il peut en parler. Voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissant la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans le déshonneur. C'est sûr qu'il s'attache alors à ce que le peuple rentre dans cette dévotion, dans cette même dévotion. Racontant comment Dieu lui a donné cette vision. Donc il va raconter ce qui s'est passé là-bas, à Suse. Il va raconter au peuple ce qu'il a vu, ce que Dieu a fait pour qu'il puisse être là aujourd'hui. Donc Dieu lui a donné sa vision, sa provision, et il va l'expliquer au peuple. On voit ça dans Néhémie 2, au verset 18. Je vais vous le lire. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, ils savaient qu'on ne pouvait pas parler au roi de Perse comme ça. C'était manifestement la main de Dieu qui était sur lui. Et le peuple était préparé par Esdras, tout concordé. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils se lèvent et ils disent, levons-nous et bâtissons. Et puisque ça même, regardez la suite du verset, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Le peuple est avec lui. Il a l'adhésion du peuple. Et le peuple partage sa dévotion. C'est une bonne chose, il a bien avancé là. Une première partie qui vient de se terminer. Alléluia. Et c'est ce qu'on a besoin de faire, nous, dans nos églises. On a besoin, comment, quand on parle de dévotion dans notre église, comment est-ce qu'on va... On va y arriver. C'est sûr que dans ce cas-là, le synonyme, ça va être la consécration. On a besoin dans nos églises de consécration. Et cette consécration va nous permettre d'avoir qu'on va se lever tous ensemble et on va se fortifier les uns les autres dans une bonne résolution d'avancer dans le corps de Christ pour réaliser le plan de Dieu. Pour l'église locale, oui, mais aussi pour l'église universelle. On a besoin de ça. C'est la même chose, c'est les mêmes mécanismes qui se passent. Ça a marché, ça marche encore. Ok, maintenant il lui reste une chose à faire, c'est organiser les travaux. C'est bien d'avoir l'adhésion, tout le monde est d'accord, tout le monde est prêt, 42 000 hommes, tout le bois nécessaire, tout est prêt. Oui, mais il faut l'organiser. On voit ça dans le chapitre 3. Le chapitre 3, au début, la première fois que je l'ai lu, pas la première fois, on va dire les bonnes centaines de fois où je l'ai lu, je n'ai pas compris. Chapitre 3, je ne l'ai pas compris. C'est quoi cette énumération, là? Et puis, il a fallu du temps pour que je comprenne le chapitre 3. Alléluia. Alors voilà ce que cette longue énumération... Vous l'avez lu, chapitre 3, de Néhémie? Alors, diapositive 59... S'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Néhémie a besoin de cette adhésion. C'est pas la 59, ça. Voilà, c'est là. C'est ça. 59. Donc, Néhémie avait besoin de l'adhésion générale. Mais cette adhésion générale est nécessaire pour avoir une collaboration efficace. Donc, le mot, c'était collaboration. Cette adhésion-là, il l'a. Maintenant, il faut la mettre en application. Et c'est vrai aussi aujourd'hui dans notre Église, dans les autres Églises. On a besoin de cette adhésion pour avoir cette collaboration efficace entre nous. Pour que tous travaillent ensemble. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 3. C'est magnifique. Le chapitre 3, je le délecte aujourd'hui. Je me délecte avec. Il y a des choses que je n'avais pas compris pendant si longtemps. Tous travaillent ensemble. Voilà ce qu'il nous dit, chapitre 3. Tout le monde a mis la main à la pâte. Tous. Les Lévites. Oh, les Lévites auraient pu dire, oui, mais nous, on est Lévites, on est mis à part. Moi, je ne travaille pas à la muraille, là, moi, je suis Lévite, moi. Le temple, il est construit, c'est correct. Non, non. Les Lévites sont mis au travail, les premiers. Alléluia. Les Lévites, les prêtres, les dirigeants, les portiers, les gardes, les orfèvres. Les orfèvres auraient dit, mais nous, là, on ne va pas mettre des portes, là. C'est quoi? Nous, on travaille sur des petites choses, là. On ne sait pas, là. Ces gondes, ces portes, là, ces choses, on ne connaît pas. Non, non. Les orfèvres, qui avaient l'habitude de faire des choses minutieuses, ils se mettent à faire des portes. Alléluia. Les pharmaciens, tous travaillent ensemble. Tous les corps de métier travaillent ensemble. Même les dirigeants qui laissent leur confort. Et tous sont heureux de travailler. En fait, c'est un projet commun. Et c'est un projet qui va profiter à tout le monde. Vous savez ce qu'on dit, moi, souvent, là, quand je faisais mes études? On me disait, un homme heureux dans son travail et qui fait confiance à sa direction va coopérer avec ses collègues. Et il va transmettre sa satisfaction à tout le monde. C'est exactement ce que l'on voit dans Néhémie 3. On n'a rien inventé, hein? C'était déjà écrit. Et c'était devant nos yeux. Vous savez, même une chose qu'il faut comprendre, et là je l'ai compris relativement tard aussi, même les célibataires, pourquoi est-ce que dans Néhémie 3, ils parlent de célibataires? Les célibataires, ils n'ont personne à protéger. Les autres, ils avaient leur famille, leur maison, leurs enfants. Les célibataires, ils n'ont personne à protéger. Ils auraient pu dire, bah, moi je suis célibataire, écoute, je n'ai pas d'enfants. Non, non. Même les célibataires sont mis à travailler. Alléluia. On voit ça dans chapitre 3, verset 23. Même les célibataires participent. Alléluia. Donc il est nécessaire d'avoir une bonne collaboration. Et pour avoir une bonne coordination, une bonne collaboration efficace, il faut avoir une bonne coordination. C'est le numéro 2. Cette bonne coordination est absolument nécessaire pour avoir cette collaboration de tout le monde. Et la coordination, bien évidemment, c'est Néhémie qui est le pivot. Cette coordination, elle vient de Néhémie. En effet, pendant 3 jours, il a eu le temps de bien préparer sa stratégie. Et au cours de ces 3 jours, il a affecté les hommes aux endroits stratégiques, là où ils devaient être. Il a dû passer du temps de prière. Seigneur, est-ce que c'est là que tu vois telle personne? Oui, c'est là. Et lui, tu le mets là. Ça a été une collaboration, cette coordination a été préparée en collaboration avec le Seigneur. Cette coordination qui est faite par Néhémie, elle est faite pour être efficace. Chaque personne, 42 000 personnes, chaque personne savait où elle devait travailler et connaissait la responsabilité exacte dans la partie de l'œuvre. Vous appelez ça une coordination moyenne, vous? Moi, j'appelle ça une excellente coordination. Chaque personne savait où il allait travailler et connaissait sa responsabilité dans l'œuvre commune. C'est sûr que la coordination est appuyée par une bonne communication. Il a fallu être sûr que la communication... Vous savez, Jérusalem, c'est une grande ville. Il a fallu s'assurer que Jérusalem puisse communiquer, chaque poste puisse communiquer les uns les autres de manière efficace. Là aussi, il a été nécessaire de faire une bonne communication pour que chaque responsable, ah oui, je vais me dire un mot là, un mot important, chaque responsable soit au courant de ce qui se passe et puisse transmettre l'information. C'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé parce que on voit là-dedans qu'il y a eu la diapositive 60, voilà, qui a eu une bonne stratégie. À la base, il était nécessaire d'avoir une bonne stratégie. Cette bonne stratégie est nécessaire pour avoir cette bonne collaboration. Vous voyez que tous ces principes, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans nos églises maintenant. Et plus que ça, dans nos vies, dans nos familles, entre nous, c'est ces mêmes principes. Alors, exemple, c'est la 60. On y est sur la 60, là ? Oui. Donc, dans le chapitre 3, au verset 21-23, on lit souvent des petits mots-clés qui reviennent, et on voit vis-à-vis de leur maison, à côté de leur maison, en face de leur maison. C'est très important, ça. C'est des choses, les premières fois, je n'ai pas compris. Mais c'est très important parce que, stratégiquement parlant, c'est essentiel. Les gens travaillaient à côté de leur maison. Les gens n'avaient pas de problème de transport. Les gens n'avaient pas de problème de vivre. Ils n'avaient pas de problème de couchage. Et les gens étaient à côté, il n'y avait pas de perte de temps. Et en plus de ça, les gens étaient motivés parce que c'était leur maison qui était derrière. Oui, il y a la muraille là. Et ma maison, elle est là. Je défends ma maison. Stratégiquement parlant, c'était efficace. La motivation était vraiment excellente. Regardez dans verset 21, on voit « Derrière lui, Mérimoth, fils d'Uri, fils de Hakot, répara un autre secteur, depuis la porte de la maison d'Eliakib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliakib. » Derrière lui, on voit ce mot partout là. Devant lui, derrière lui, à côté de lui. À côté d'eux. C'est positif 62 là. Derrière eux, le verset 23, derrière eux, à côté, derrière, vis-à-vis. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans là? On voit une chaîne humaine. Et ce qui s'est passé, c'est que chacun savait qui était l'équipe d'à côté, l'équipe d'en face, l'équipe de derrière. On voit que comme si Jérusalem, avant d'avoir une muraille de pierre, avait une muraille de chair et de sang. Ce chapitre 3, c'est ça qu'il nous montre. Il nous montre que tous les travailleurs avaient déjà formé le mur de leur corps, de leur chair, de leurs os, de leur sang. Le mur existait déjà. Il n'y avait plus qu'à le bâtir. Mais c'est un détail. Mettre des pierres, du ciment, c'est un détail. Le travail était fait déjà. Ils étaient là. La muraille était déjà réalisée par chaque personne, chaque travailleur. Et chacun se fortifiait lui-même et son voisin. Vous savez, hein, c'est comme... C'est ça. Ça se tient. Ah, ça bouge, attendez. Ça peut bouger comme ça, dans tous les sens. Mais ça ne peut pas trop se séparer. Hein. Ça reste à sa place. Hein. Et c'est ça qui s'est passé. Chacun allait aider l'autre. Et ça, c'est une bonne chose pour nous. On doit comprendre qu'on est soudés au corps du Christ. C'est comme ça qu'on doit agir. Alléluia. Ça, on le verra tout à l'heure dans la conclusion. Alléluia. Et regardez ce qui s'est passé, c'est que... C'est sûr qu'il y a eu des attaques, il y a eu plein d'attaques. Comment, vous savez, Sambalat, etc. Comment Néhémie a répondu à ces attaques? On voit ça dans 63, peut-être. La réponse de Néhémie, ça a été « Nous avons prié notre Dieu et nous avons établi une garde jour et nuit. » Néhémie a prié, on voit ça dans chapitre 4, verset 3. Chapitre 4, verset 13, il dit « C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par clan, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. » Continue, chapitre 4, verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, écoutez ce qui se passe. la stratégie a détruit l'attaque qui était prévue par les ennemis. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur entreprise. Dieu anéantit leur entreprise. Et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaille à l'ouvrage et l'autre moitié tenait en main des lances. 65. Les boucliers, les arcs et les cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Et ceux qui bâtissaient, ça c'est le verset 17, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main en tenant une arme et de l'autre main en tenant les fardeaux. Ceux qui bâtissaient avaient chacun son épée attachée à ses reins et ils travaillaient ainsi. Ce qui donnait au corps, ce qui sonnait du corps se tenait près de moi. Donc Néhémie, lui, il a mis en place sa stratégie. La communication, ça passait au travers de lui, et chacun était autonome et capable de se défendre. Mais chacun était capable de défendre le poste d'à côté. Imprenable. Stratégiquement parlant, c'était vraiment le top. Et spirituellement, c'est ce qu'on doit appliquer dans nos églises. Quel est le résultat de tout ça? Le résultat, c'est que partout dans le texte, on voit du zèle. Non seulement c'était difficile, c'était pas évident, mais on voit du zèle. Beaucoup en font beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu de faire. On voit partout dans le chapitre 3 un autre secteur. Ça veut dire qu'ils ont fait le sien et qu'ils finissent par un autre secteur. Autrement dit, la muraille, elle s'est faite beaucoup plus rapidement. Parce que chacun y a mis son zèle. Alléluia. Néhémie a divisé la muraille en 40 portions. Ça, c'est dans la diapositive 68. C'est-à-dire que le pouvoir décisionnel était délégué au chef de groupe. C'est ce qui se passe dans nos églises. Néhémie se contentait de coordonner les efforts, d'encourager les ouvriers et de veiller à ce que le travail soit achevé. C'est le travail du pasteur. C'est exactement ça. Et le travail fut achevé en 52 jours. Ce qui n'a pas été possible en 70 ans, ça a été réalisé en 52 jours. Vous vous rendez compte? Pourquoi? C'est quoi qu'on peut en tirer comme... Chaque personne était à sa place. Et chaque personne a apporté sa propre grâce. Sa grâce personnelle dans l'ensemble. Tout le monde est important dans l'œuvre de Dieu. Vous avez vu 42 000 personnes, 360? Hey, le chiffre est précis. Tout le monde a fait quelque chose. Tout le monde est important dans l'œuvre de Dieu. Personne n'a été laissé de côté. Personne. Un bon esprit d'équipe où chacun va se soutenir. Chacun va comprendre le travail qui est fait à côté. Chacun ne va pas faire le travail qui est fait à côté. Souvent dans nos églises, c'est le problème. C'est que les gens s'occupent de ce que les autres font à côté. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Chacun fait son travail, connaît le travail des autres et le respecte, et encourage, et aide. L'encourage et le protège. Tout le monde a le souci de son voisin et va s'entraider si c'est nécessaire. On n'arrive pas loin de la conclusion de la deuxième partie. Qu'est-ce que je dois retenir là-dedans? Donc ça, c'est la diapositive 70. 7-0. Première chose qu'il faut retenir, j'ai une place dans le mur. J'ai une place dans le mur. J'ai une place dans le mur. Cette place-là, elle est à moi. Personne ne peut me remplacer aussi bien que moi. Parce que cette place, elle a été préparée pour moi. Ça vous est déjà arrivé de visser une vis carrée avec un tournevis cruciforme? pouvez essayer. On va faire un beau job. C'est sûr. Chacun de nous, nous avons notre place. Et si vous êtes un tournevis cruciforme, vous devez aller là où il y a des vis cruciformes. Suivant, 71. Il est nécessaire que je prenne ma place, pas la place de l'autre. Ma place. Ma place, celle qui m'est réservée, celle que je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je sais que c'est, ça. Ouais, et parfois c'est pas facile. Parfois il y a quelqu'un d'autre qui est déjà dans cette place-là. Ouais, mais c'est quelqu'un d'autre, vous voyez comment il souffre. C'est pas sa place. C'est là que c'est nécessaire de prier, d'être avec lui, de dire, écoute, regarde là, toi, c'est quoi ton cœur? Ah, oh, mon cœur, ça serait faire ça. Ouais, mais tu comprends, je peux pas, parce qu'il n'y a personne qui le fait. Ok. Ok. Écoute, on va voir comment on va faire. Montre-moi comment tu fais. Oh, mais tu fais mieux que moi. Ouais. Ah, ben, t'as qu'à faire. Ouais. Prends ta place. Prends ta place. C'est pas obligé de dire, pousse-toi. Mais prends ta place. Vous savez, des fois, on a une responsabilité. On a des comptes à rendre, chacun de nous. Si des gens vous disent, bah écoute, c'est pas ta place, et que vous avez la certitude dans votre cœur que c'est votre place, et que vous ne le faites pas, vous avez des comptes à rendre. Parce que c'était votre place. C'est à vous à rendre ces comptes. Pas à l'autre qui vous a dit, non, on ne le fait pas. Vous avez des comptes à rendre. C'est important de prendre sa place et d'être sûr que c'est bien la place que Dieu vous a donnée. Troisième chose, 72, il faut que je reste à ma place jusqu'à la fin des travaux. Vous savez, moi, je ne suis pas le pasteur principal de cette église. Est-ce que je veux l'être? Non! Pourquoi? C'est pas ma place! J'ai aucun intérêt! Je vais me casser la figure. C'est pas ma place. Ma place, c'est d'être assistant pasteur. Là, je suis efficace. C'est ma place. Alléluia. La dernière, 73. Il faut que j'aide les autres à tenir leur place. Il faut que j'aide les autres. 73, peut-être. Alors, 74, voilà. Je dois aider, c'est ça. C'est important de comprendre que je dois aider les autres à prendre, à garder leur place. Si vous voyez les, vos amis, vous savez que c'est leur place. Et il se peut qu'à un moment donné, ils traversent une période difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, ils vont se casser la figure. Ah ben, une fois qu'ils vont se casser la figure, alors moi j'ai un chum là-bas, ouais, il ferait bien l'affaire. Non, c'est pas son job. On va l'aider, on sait que c'est sa place. C'est important de regarder ce qui se passe dans le cœur de Christ. Et d'aller, à un moment donné, soutenir. Je vais t'aider à le faire, je vais pas le faire à ta place, non. Non. Ça te donnerait des idées de laisser tomber, là, mon gars. Mais je vais t'aider, je vais donner un coup de main, là, repousse-toi sur moi. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le corps fonctionne. C'est un corps qui bouge. Un corps qui bouge dans tous les sens. C'est sûr qu'il y a des tensions, à un moment donné. Il y a des pressions. Mais ça ne se détache pas. Parce que c'est un corps. Vous savez, j'ai jamais vu, moi, de migration dans un corps. L'œil qui déciderait d'aller de l'autre côté. L'œil qui déciderait de descendre. Non. J'ai jamais vu de migration, moi. C'est ça. Alléluia. L'ensemble du corps du Christ tient son développement, sa force, son efficacité par rapport à l'attitude de chaque membre. Le principe du corps peut produire deux choses. Soit la propagation de cette onction que Dieu nous a laissée à cause de la consécration, de l'engagement, de la prière, de l'amour, de l'unité, des dons qu'il donne dans l'Église. Soit une injustice. Quelle injustice, vous me direz ? Que la minorité du corps du Christ se retrouve à assumer tout l'engagement pour le groupe, pour le corps. Et qu'il n'y en ait qu'une minorité qui fasse tout le travail qui est prévu pour tout le corps. Une partie qui ne fait pas son travail entraîne que les autres parties vont prendre le travail. Cette partie qui ne travaille pas. Et ça va provoquer de l'injustice. C'est sûr que je ne vais pas prêcher une deuxième fois sur l'engagement, comme l'année dernière, mais il faut bien comprendre que à un moment donné, le Seigneur va nous amener à ce qu'il va y avoir un choix à faire. Soit on va être parmi ceux qui vont se laisser conduire par Dieu, ou on va faire partie de ceux qui vont se séparer de Dieu. C'est commencé déjà. Mais il n'est pas trop tard pour faire le bon choix maintenant. C'est sûr que bientôt il sera difficile, plus difficile encore. Mais il va falloir pour nous tenir par la foi. La foi en quoi ? La foi en notre appartenance au corps du Christ. C'est quoi le corps du Christ ? C'est une appartenance à un autre monde. Nous faisons partie du royaume. Nous sommes que visiteurs dans ce monde. Ce monde n'est pas destiné à perdurer indéfiniment. Ce que Dieu a prévu va arriver. Nous devons avoir la foi pour tenir ferme notre appartenance. Vous savez que l'enjeu, il n'est pas simplement individuel. Si on s'engage que pour nous, l'enjeu va être réduit. Mais si notre engagement, c'est l'Église entière qui la prend, l'enjeu va être beaucoup plus important. Peut-être qu'on va toucher une ville, peut-être un pays. Bon, c'est important que nous soyons unis et que dans notre engagement, il n'y a pas qu'une minorité qui travaille. Mais plutôt que la majorité s'occupe de la minorité qui ne peut pas travailler. Ça me plairait mieux. Alléluia. Nous sommes un corps. Ce n'est pas de notre volonté, mais c'est celle de Dieu. Le problème, c'est que souvent dans l'Église, on a des personnes qui sont à l'Église mais qui n'ont pas d'engagement, d'engagement moral. Et quand le vent souffle un peu fort, c'est dur peut-être ce que je vais dire, c'est vrai. Et quand le vent souffle un peu trop fort, ils ne se sentent pas concernés et ils changent l'Église. Dieu n'a jamais imaginé cette conception des choses pour son Église. Lisez les Épîtres, vous allez voir. Elle ne cesse de répéter de fraternité, de redevance que nous devons avoir les uns avec les autres, de l'amour que nous devons montrer les uns vis-à-vis des autres. Et les Épîtres vont montrer qu'on ne cesse pas de travailler au fonctionnement cohérent de l'Église. Ouais, mais si dans une voiture, il n'y a que l'alternateur qui tourne, l'alternateur, il a beau tourner, je ne pense pas qu'il puisse faire avancer le camion. Il faut qu'il y ait la totalité du corps, ou au moins la grosse majorité, qui se mette à fonctionner pour qu'un camion avance. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et c'est Dieu qui nous apporte la provision pour ce qu'il a prévu de faire. Ce n'est pas nous qui l'apportons, cette provision. Notre travail, c'est de collaborer dans le plan de Dieu. Alléluia. Il ne faut plus accepter qu'il n'y ait qu'une minorité qui fasse le travail de la majorité. Et pour cela, on a besoin de s'engager. C'est pour cela qu'on a bien choisi dans Néhémie, que le Seigneur nous a vraiment mis à cœur de parler de Néhémie. Néhémie, personne n'a été mis de côté. Et c'est ça que le Seigneur attend du corps du Christ. Que nous soyons forts, nombreux. C'est ça notre vie de rêve. C'est ça notre vie de rêve qu'on veut bâtir. C'est un travail de consécration et de collaboration dans l'unité du corps du Christ. Oui, on recherche la vision. Oui, on réclame la provision. Oui, on cherche la consécration, la dévotion. Mais ça, c'est pour marcher dans l'amour. Et quand on marche dans l'amour, on marche en tenant compte des uns à droite, des uns à gauche. On marche dans la collaboration. Personne n'est oublié. Merci Seigneur. Alléluia. On vient de parler du corps du Christ, on vient de parler de beaucoup de choses, mais vous savez qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est que le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est quand on prend pleinement la grâce de Dieu de rentrer dans le salut. Alors ce matin, je vais faire un appel pour ceux qui ne seraient pas sûrs d'avoir reçu le salut. En 1974, vous savez, c'est ce qu'on fait d'habitude à la vie comblée. Pasteur Ken a reçu cette vision que nous ne faisons pas un seul dimanche sans ouvrir la possibilité à ceux qui ne sont pas rentrés dans la famille de Dieu de pouvoir le faire maintenant. Pas demain ou un jour, tout de suite. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et vous savez, le corps du Christ se réjouit avec les anges et toutes les créatures du ciel quand on parle de ça. On est en train d'offrir la vie éternelle. Alléluia. C'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose d'important et de précieux. Et c'est important dans nos églises de pouvoir le faire parce que un jour, vous allez avoir un rendez-vous exceptionnel. Un rendez-vous divin qui va vous mener devant des personnes. Où il va falloir faire ça. Il va falloir vous expliquer ce que c'est que le plan du salut. En trois mots, en quatre mots, en deux lignes. Oui, mais le corps du Christ s'est préparé pendant des années et des années. Et aujourd'hui, on est capable de parler, tous de parler, pour annoncer l'Évangile. C'est ça le plan de Dieu. Un corps du Christ qui fonctionne. Alors tous, c'est quoi ce message? Tes péchés t'ont séparé de Dieu. Suivante. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On voit ça dans Romains 3, 23. C'est possible, suivante. Le péché nous a séparés de Dieu, c'est infranchissable. Il n'y a rien qui va nous permettre de nous faire sauter le mur. On ne peut pas. On est séparé de Dieu. Il n'y a rien qui puisse nous permettre, humainement, nous-mêmes, de par nous-mêmes. On a beau faire de belles choses, appartenir à une église ne va pas vous donner le salut. Appartenir à telle dénomination, protestante, catholique, orthodoxe, anglicane, c'est pas ça qui va vous donner le salut. Lire sa Bible ne va pas vous donner le salut. Faire de bonnes actions non plus. Suivante. Seulement Jésus peut te sauver. Seulement Jésus peut te sauver. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Retenez dans votre tête. Vous en aurez besoin au prochain rendez-vous divin que Dieu va vous mettre devant votre vie. Alléluia, vous avez besoin de ce verset. Pas pour vous, vous le savez, mais pour ceux qui ont besoin de recevoir le salut. Suivante. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène l'homme à Dieu. Le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en aura jamais d'autre. Suivante. Et ce salut, il faut le recevoir personnellement. C'est une affaire personnelle entre moi et Jésus. Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a été donnée, le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Jean 1.12, retenez Jean 1.12. Et par Jésus, nous avons la possibilité d'avoir la vie. La vie, c'est la paix, le pardon. Est-ce que quelqu'un peut venir faire un petit peu de musique? Il n'y a personne? Un petit fond musical. D'où est-ce qu'on vient? On vient de la mort, de la rébellion, du péché, de la misère. Où on va, où on peut aller par Jésus-Christ, à la vie. La vie, c'est la paix, c'est le pardon, c'est la joie. Alléluia. Suivante. Accepte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est ça qu'ils vont vous dire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Accepte que tu ne peux être sauvé par toi-même. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Retenez Éphésiens 2, 8 à 9. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tourne-toi vers Dieu et change la direction de ta vie. Oui, mais j'ai péché, j'ai fait des énormes choses. Demande pardon et tourne-toi vers Dieu. Change ta vie. Tout le monde a été pécheur. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 28. Retenez-le. Troisièmement, confesse de ta bouche. Oui, j'ai quelque chose à faire. J'ai un travail à faire de moi-même. Il faut que volontairement, moi, je confesse Jésus. Je confesse quoi? Que Jésus est Seigneur et qu'il est mon Sauveur, en croyant dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts. Le salut, c'est la nouvelle naissance. Nous avons le salut parce que Dieu a ressuscité Jésus, qui lui a pris tous nos péchés. Et de ce fait, tous nos péchés ont disparu. Disparu. Nous sommes avec Christ aujourd'hui. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut, c'est parce qu'il a été ressuscité, pardonné, parce qu'il a pris tous nos péchés. Sois prêt à confesser Jésus devant les autres, à professer, confesser. On apprend tous ici à le faire, là. Pourquoi vous écoutez là? C'est parce qu'on apprend à le faire. Et c'est tellement important d'être capable de confesser Jésus. Mais là, la parole est la plus importante, c'est professer Jésus. Il faut confesser Jésus. Il faut faire comprendre. Sois prêt à professer Jésus devant les autres. À enseigner. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. 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 Ce matin, je vais faire un appel dans le cas où dans votre cœur, c'est à vous. Ce n'est pas une question d'années que vous passez dans. C'est peut-être dans le Seigneur depuis pendant 10 ans, 15 ans. Mais peut-être au fond de vous-même, vous n'avez pas la certitude du salut. Si aujourd'hui, votre vie cessait, avez-vous la certitude absolue d'aller le rejoindre. Jésus, si vous l'avez, c'est que le Seigneur a travaillé en vous et qu'il est en vous. Et vous avez de ce fait la vie éternelle. Mais si vous n'avez pas la certitude absolue, peut-être qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Pour vous. Parce que le Seigneur, lui, va vous donner cette certitude. Et on a besoin de cette certitude. Alors, si l'un de vous, peu importe le nombre d'années que vous êtes avec le Seigneur, si vous sentez que c'est le moment d'avoir quelque chose de plus, d'avoir cette certitude d'être sauvé, alors c'est le moment de venir et de confesser Jésus. Donc je vous donne cette possibilité aujourd'hui. Alléluia. Si vous avez ce désir, c'est maintenant. Vous pouvez vous lever si vous le désirez venir. En toute liberté, personne ne vous jugera. Vous venez dans une famille de Dieu. Alléluia. Je vais faire un deuxième appel aujourd'hui, en plus du premier. Si vous sentez que dans votre vie, vous avez raté votre place dans le mur. Si vous saviez que c'était là et puis que vous ne l'avez pas fait, et puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas obéi. Aujourd'hui, dans votre cœur, je voudrais que vous teniez devant le Seigneur en disant, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je sais que tu veux me faire ça, je sais que je n'ai pas la force. Mais j'ai cru que je ne le faisais qu'avec ma force. Je n'avais pas compris que ce que tu me demandes de faire dépasse mes capacités. Et que si je peux le faire, c'est parce que c'est ta force qui me permet de le faire. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est peut-être le moment de fermer les yeux et de vous dire, Seigneur, je demande pardon, Seigneur. Seigneur, montre-moi, donne-moi cette vision, Seigneur. Cette vision, Seigneur, que tu m'as préparée depuis si longtemps. Parce que je veux m'engager, Seigneur, mon Seigneur. Je veux faire ma part, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes la provision pour le faire.